Il y a déjà, en fait, les rendus des procès, enfin, deux rendus de procès qui sont en train de se faire maintenant à 9h, il y en aura d'autres à 10h et d'autres encore à 11h après. Sinon, on aura des lectures de différents textes, on va parler de répression, on va parler de critique de la justice juste après. On va parler aussi de sable, de construction, de béton. Enfin voilà, plein de plus ou moins belles choses, mais du moins important d'en parler. Et puis je vous laisse tout de suite avec cette super personne à ma gauche qui va nous lire un texte qui va faire écho au procès de la semaine passée. Voilà, je te laisse la parole. Oui, on peut peut-être baisser la musique un tout petit peu. Peut-être avant ça, on a eu l'info la semaine passée que les personnes à l'intérieur entendaient nos voix quand on les acclamait depuis l'extérieur. Donc peut-être pour commencer la journée, on peut envoyer des gros encouragements à tout le monde qui est dedans. Je pense qu'on veut faire quelques secondes de bruit. Bah, c'est maintenant. Trop bien, je pense qu'on pourra faire ça plusieurs fois au cours de la matinée pour que les encouragements s'entendent même derrière ces murs de béton. Du coup voilà, sans plus d'attente, petit texte qui s'adresse à la justice, au système juridique et voilà, à toutes les personnes à l'intérieur de ce bâtiment. La semaine passée, ici au tribunal d'arrondissement de la Côte à Nyon, le juge Toll et le procureur Potier nous répétaient qu'il ne fallait pas confondre le politique et le pénal. Pour ces deux hommes, ce qui devait se jouer au tribunal ne concernerait que le cadre légal de l'affaire de la ZAD. Et le reste, bah, n'était pas à prendre en compte. Dans leur vision, les actions des zadistes pouvaient être totalement détachées du contexte sociétal dans lequel elles se jouaient. Sauf que cette vision, elle est politique. C'est un choix politique de prétendre que notre système, lui qui perpétue tant d'oppression et de destruction, est totalement neutre. Ce choix, que le système juridique répète continuellement, c'est de prétendre que les lois et les personnes qui les défendent sont neutres et impartiales. Sauf que les lois auxquelles nous avons affaire ici, ce sont des lois qui défendent la propriété privée plutôt que le vivant. Ce sont des lois qui protègent les décisions des autorités qui refusent de tenir compte du ravage écologique en cours. Ce sont des lois qui servent à réprimer les contestations, à faire taire les voix dissidentes dans un océan d'apathie générale. Ce sont des lois qui protègent un système destructeur et c'est eux qui maintiennent et tirent profit de ce même système. On ne croit pas à votre vision de la justice. Votre justice, elle enferme celles qui défendent un monde meilleur, en plus de celles qui ont été désignées criminelles pour détourner l'attention du vrai criminel, le système capitaliste que votre institution défend si ardemment. Votre justice, c'est une justice punitive. Votre justice, elle stigmatise, elle reproduit les inégalités que nous, on essaye de combattre. Votre justice, elle est classiste, raciste, validiste et discriminante de plein d'autres façons. Votre justice, elle se met en travers des luttes. Elle essaye de réduire au silence les voix qui s'élèvent, n'est-ce pas ironique, contre les injustices, justement. Alors, pourquoi est-ce qu'on est là quand même? Ben, on ne nous laisse pas trop le choix. On doit se défendre face à l'acharnement des procureurs et face aux attaques répressives menées par l'État. En tant que militant ex, on aimerait bien pouvoir nous focaliser sur les sujets principaux de notre lutte. Celle contre la destruction du vivant, contre le CIM et son monde, contre le ravage écologique perpétué par les multinationales. Et pourtant, on s'épuise à devoir nous défendre juridiquement et financièrement contre les mesures totalement disproportionnées qui s'abattent sur nous. Alors voilà, on n'a pas trop le choix. On ne reconnaît pas vos institutions comme légitimes, mais votre système judiciaire veut enfermer nos copains et protéger les vrais criminels, les multinationales qui ravagent le vivant. Alors forcément, on est là. Vos institutions, vos nombreuses audiences, on les utilise pour vous rappeler, à vous et à celles qui entendent parler de ce qui se passe ici, que nous, on est légitimes, que notre lutte a beaucoup plus de justesse que votre soi-disant justice. Alors voilà, il nous reste 5 ans pour changer de paradigme et avancer. Franchement, quel espoir est-ce que ces institutions nous donnent pour le monde de maintenant, notre avenir, l'avenir de nos enfants, l'avenir des vôtres? Aucun. C'est triste. Alors que le monde vient de franchir sa 5e ligne rouge, avec une production de plastique qui pèse plus que tous les mammifères de la planète, humains compris, le crash semble inévitable. Et pourtant, vous persistez à incriminer celles qui le défendent. Il nous reste moins de 5 ans, selon les rapports du GIEC, pour inverser la tendance et progresser de manière drastique vers un système plus basé sur la décroissance. Quel espoir est-ce que vos institutions nous donnent quant à notre avenir, celui de nos enfants ou même celui de maintenant? Et Cottier, on donne rendez-vous dans 13, 12 ans, quand tes petits-enfants subiront les conséquences, quand ils subiront les conséquences dramatiques de ton mépris pour leur futur. Voilà, merci. Également pour annoncer à tous les médias qui seraient là qu'il y aura une conférence de presse vers midi, une fois que tous les rendus seront terminés et que les festivités du matin approcheront gentiment de leur fin. Du coup, restez jusque-là, il y aura l'occasion de poser des questions, on pourra aussi faire des résumés de ce qui s'est passé pendant les moments de verdict. Voilà, on se réjouit de vous y voir.
Il semblerait qu'il y ait un premier verdict qui soit terminé, on attend juste les informations officielles d'une personne qui va venir nous faire un retour ici. Voilà, encore un peu de suspense. Alors, en attendant le verdict, on va un petit peu rappeler ce qui s'est passé la semaine passée ici pour les personnes qui n'y étaient pas et pour les personnes qui étaient... Mais voilà, pour se rappeler un petit peu, se remémorer ce qui s'est passé, donc on a eu des procès en tout 7 entre lundi 17 et mercredi 19. Pour le lundi 17, on a eu la première représentation pendant qu'il s'est passé un procès à l'intérieur. On a eu le vrai procès d'Holcim, juste ici. Voilà, la pièce de théâtre zadiste qui fut un succès, hein, n'est-ce pas, qui va bientôt, voilà, avoir un succès mondial, qui sait. Donc voilà, on a eu ça. On a eu la tribune des experts. Alors, je n'ai pas assisté, mais...
On a eu l'occasion d'entendre différentes personnes très renseignées sur le sujet de pourquoi est-ce que Holcim en fait est en train de commettre du crime, tout simplement en continuant son exploitation effrénée de la colline, en continuant à alimenter les mécanismes destructeurs du système capitaliste dans lequel on vit, en continuant à ravager le vivant, en abusant totalement du droit des travailleuses. Enfin bref, tout un bel historique dont on a pu se rappeler de pourquoi on était là et pourquoi on était sur la colline à lutter contre cette multinationale.
Merci. Et puis ensuite, il y a eu la sortie des premières accusées. On a eu un repas vegan prix libre juste en dessous vers la gare. Et puis ensuite, un compte-rendu par les bardes de ce qui s'est passé pendant ces deux premiers procès. Voilà, pendant ces 5 heures, 4 ou 5 heures, suivant lesquelles, voilà, de discussion ou un petit peu de non-discussion, voilà, sur tout ça. Et ensuite, une super table ronde sur le sujet du béton, la résistance au béton, avec Armel Choplin, donc une architecte. Et puis, on a eu d'autres personnes à cette table ronde. Je ne sais plus exactement. Voilà. Et puis, le soir, surtout, la grande manifestation chantant, dansant au flambeau. Dans la ville de Lyon pour soutenir tous les zadistes. Voilà. Donc ça, c'était pour lundi.
Du coup, tu veux nous raconter ce qui s'est passé dans ce tribunal?
Alors, pendant tout le temps, j'ai rien compris ce qu'il disait, en fait. Donc, je peux pas vraiment expliquer ce qui s'est passé, mais ce que mon avocat m'a expliqué à la fin, c'est que j'ai été acquitté des 3 chefs d'accusation. Que par contre, les frais de justice de 1100 francs sont à ma charge. Pour une raison que mon avocat expliquera sûrement mieux que moi. Et que par contre, ça c'est pour moi une très bonne nouvelle, par contre ils vont me verser une indemnité de 300 francs pour les conditions de détention provisoire qui étaient inacceptables. Et même si, bien sûr, je vais pas, je me réjouis du fait d'avoir été acquittée, mais moi, je ne suis pas montée sur la colline du Mormon dans le but d'être acquittée, en fait. Si le but final, c'était de rien avoir, je ne serais pas montée. Je suis montée parce que parce qu'il y a un réel problème qui va... tout le monde le sait, ce réel problème, mais c'est le système dans lequel on est, qui a besoin de détruire le vivant pour s'alimenter. Et ça, ça n'a pas encore été réglé. Et maintenant, moi, c'est mon cas, et je crois qu'il y a d'autres personnes qui vont recevoir leur verdict aujourd'hui. Et on va regarder ça attentivement. Merci.
En effet, comme tu disais, rappelons-nous que même si en acquittement, c'est quand même, quelque chose dont on peut se réjouir. Rien que par le fait que, du coup, la répression s'abattra moins durement sur toi, à une échelle individuelle, on va encore pour les autres. En fait, on ne peut pas crier victoire quand on est dans le système dans lequel on vit, en fait. On ne peut pas crier victoire tant qu'on n'a pas mis fin au système capitaliste. On ne peut pas crier victoire tant qu'on n'a pas mis fin au règne d'Olcim, au règne des multinationales, qui détruisent le vivant, qui ravagent le monde dans lequel on vit, qui nous empêchent, en fait, de même imaginer un futur viable sur cette terre. Du coup, voilà, on est content, contente de voir que la justice commence un petit peu à entendre les messages qu'on porte, mais réjouissons-nous pas trop vite parce que la lutte est encore longue. D'ailleurs, j'appelle aussi, si ton avocat est par là, s'il y a des avocats, avocates qui ont envie de prendre la parole pour un peu, peut-être résumer, peut-être un peu débriefer un peu de tout le contenu juridique un peu complexe qui s'est déroulé dedans. C'est super qu'on puisse avoir des personnes qui font la synthèse de ce qui se déroule dedans. Voilà. Je ne sais pas si on a d'autres nouvelles de l'intérieur. N'hésitez pas à venir prendre le micro si vous avez envie de raconter des choses que vous avez vécues dedans, des choses qui vous ont marquées. Sinon, on va pouvoir continuer sur le programme, raconter un peu comment ça s'est passé la semaine passée, continuer avec les différentes interventions qui nous rappellent aussi de pourquoi on est là aujourd'hui, avec des petites intermèdes en musique entre deux. Point important à relever, du coup, on a entendu que la personne a été indemnisée, en fait, pour compenser sur les conditions de détention qui étaient absolument déplorables. Et du coup, je voulais demander s'il y a des personnes ici qui aimeraient témoigner de leurs conditions de détention. Sinon, moi, je raconte volontiers, on a eu des retours différents des personnes qui ont été enfermées et les conditions dans lesquelles c'était. Donc, mais n'hésitez pas à venir témoigner si vous avez des choses à raconter dessus. Retour 9 mois en arrière, nous sommes le 30 mars sur le haut de la colline du Mormon, au milieu d'une opération policière totalement démesurée avec, je ne me rappelle plus des nombres exacts, mais je crois qu'on était aux alentours de 600 policiers avec leur armure complète, leur team spécial, grimpe, leur machine qui était là pour à la fois déloger les militants textes, mais ensuite directement pour détruire les cabanes, pour détruire la ZAD, pour détruire en fait ce qu'on avait construit pendant les 5 mois auparavant. Et près d'une soixantaine de militants textes ont été embarqués, je crois. Les chiffres sont peut-être, facteur de confiance plus ou moins 10, 15, à peu près par ça. En tout cas, une grosse cinquantaine a été emmenée, du coup, dans des fourgons au commissariat de la Blecherette. Et c'est là que les conditions de détention minables ont commencé. Du coup, il y a des personnes qui ont été retenues jusqu'à 48 heures de temps. Les personnes qui n'avaient pas donné leur identité ont été mises, placées dans des cages, en fait, qui ont été, les informations qu'on a, qui étaient sous des grandes tentes dehors, donc, fin mars. Oui, ouais, bah volontiers. Rappelons qu'on était fin mars, il faut utiliser très très froid, que ça avait été une journée épuisante, autant émotionnellement que physiquement pour toutes les personnes concernées. Du coup, là, on a quelqu'un qui est d'accord de témoigner de ces conditions.
Donc, j'ai été interpellé à la ZAD à peu près vers 18h. J'ai été transporté en fourgon, menotté, et désolé. Quand je me suis retrouvé à la Blecherette, on m'a mis dans des cages, quatre grilles de chantier, cadenassées entre elles, dehors, sur un parking. On avait deux bancs, pas d'eau, on était six. On a dû insister pendant, je dirais bien, une heure pour avoir une bouteille d'eau. Quand il y a une personne qui s'est plaint pour la question de coronavirus, une bouteille d'eau pour six, je rappelle, on était en mars, il n'y avait pas encore de vaccin, il y avait on était en train de remonter dans les cas, il y avait des problèmes d'hospitalisation. La police a récupéré la bouteille d'eau plutôt que de s'excuser ou de en trouver d'autres. Puis, plusieurs heures se passent, il commence à faire nuit, il commence à faire vraiment froid. Plusieurs d'entre nous, dont c'était mon cas, ont été arrêtés en journée et étaient donc encore en t-shirt. Sauf qu'en mars, la nuit est vraiment froid. Impossible pour la police de nous trouver des couvertures. Même impossible pour eux de nous laisser juste avoir accès à nos sacs pour qu'on trouve des pulls et des couvertures. C'était même pas une question de « il leur manque du matériel ». On ne pouvait pas accéder à nos propres affaires pour se réchauffer. C'est quelque chose qu'on leur a proposé, mais qu'ils ont totalement refusé. Et je suis resté dans ces conditions-là jusqu'à à peu près 2h du matin avant qu'on m'interroge, me fouille à nu et me mette dans une cellule chauffée. Au moins, je n'ai pas passé toute la nuit dehors, contrairement à d'autres personnes.
Voilà, comme on entend des conditions de détention plutôt déplorables, notons aussi que la police a procédé à des relevés de température avec, vous savez, ces thermomètres laser qu'on peut pointer sur une personne pour voir si elle n'aurait pas de la fièvre en période de pandémie. Et notons en fait que l'écrasante majorité, voire même la totalité des personnes étaient en hypothermie à ce moment-là, après avoir passé une soirée entière au froid, sans couverture, sans habits chauds, alors même que ces habits chauds étaient posés juste à côté. On peut aussi noter le fait que voilà, les personnes inconnues, donc celles qui n'ont pas choisi de donner, enfin celles qui ont choisi de ne pas donner leur identité, solidarité avec elles d'ailleurs, ben, ces personnes-là, leur ADN a été pris de force. Donc rappelons que pour prendre l'ADN, il faut enfoncer un Q-tips dans la bouche pour faire un prélèvement de salive. Donc des trucs qui ont été faits de force avec souvent 3 à 4 policiers qui retenaient une personne pour lui prélever son ADN, lui prélever ses empreintes avec énormément de violence. Du coup, voilà, il y a sûrement encore 1000 autres histoires de trucs pas ouf qui se sont passées en détention pendant ces deux journées-là. Voilà, un autre témoignage. Ouais, du coup, après une journée très éprouvante, les arrestations, le froid, être privé d'eau, être privé de manger aussi, il y a le harcèlement psychologique et moral qui vient, c'est-à-dire que moi, on m'a enfermé seule. Pour aller aux toilettes, pour faire quoi que ce soit, je devais sonner, on devait venir me chercher, des fois ça prenait du temps. À chaque fois que je sortais, j'ai demandé l'heure et on m'a menti sur l'heure. Il n'y avait pas de cohérence entre les moments où on me demandait l'heure, des fois on me disait qu'il était plus tard et des fois plus tôt. Au moment de m'emmener en cellule aussi, je suis passée devant un groupe qui distribuait des sandwichs et l'inspecteur qui me faisait la suite a dit « Ah non, pas elle, elle n'a pas le droit de manger ». Et on m'a emmenée et j'ai cru que j'allais vraiment pas manger. Finalement, plus tard, on m'a amenée à manger. Mais c'est toutes ces petites choses, en fait, tous ces petits commentaires comme ça, psychologiques, qui font que c'est très, très usant et très, très difficile à vivre. Voilà. Du coup, on peut se questionner sur qu'est-ce que ça vaut 300 francs d'indemnisation par rapport à des conditions pareilles. Voilà, au moins, peut-être une première étape dans une reconnaissance de ce qui s'est passé. Mais continuons à parler de ce qui s'est passé, continuons à rappeler les conditions de détention. Il ne faut pas qu'on oublie ça, il ne faut pas que ça soit caché non plus, parce que ça fait partie intégrante en fait, de l'appareil répressif qui est mené sur les militants textes tout au long de leur lutte. Voilà. Du coup, on va peut-être faire un petit intermède musique avant de passer à la suite. Après, on pourra raconter un peu de nouveau comment ça s'est passé la semaine passée. On va pouvoir continuer avec les rendus. Il y a aussi plein de textes et de super discours qui ont été préparés. On a aussi du sirop, des fruits, du thé chaud posé sur la table là-bas. On va aussi sortir, il y aura les goodies du marché anti-rep, donc des calendriers, des albums, différentes œuvres d'art qui ont été fabriquées, qui seront vendues prix libre pour pouvoir récolter des frais pour typiquement les frais de justice dont on a parlé juste avant. C'est tout pour l'instant. À plus pour d'autres nouvelles sur comment cette journée se déroule.